Vous écoutez
RMC.
À votre avis, c'est qui le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant?
RMC.
Les grandes gueules du sport.
Le bras de fer GG.
Vraiment, t'es sûr que l'éléphant, il est plus fort que l'hippopotame?
Et vous êtes extrêmement nombreux à voter, à participer à ce débat sur le compte Twitter des grandes gueules du sport. N'hésitez pas à composer le 32-16 si vous voulez participer oralement. Pour l'instant, pour le moment, le match va débuter. Mais vous avez voté ce matin. C'est possible, 67%. C'est impossible, 33%. C'est d'usage. C'est donc celui qui est derrière, celui qui doit convaincre. Qui comment? Je suis très surpris par ce sondage parce que je te rejoins totalement, Christophe. Et si tu as besoin de moi, tu peux t'aiguiller ton brouet. Tu peux faire appel à un ami et je serai là.
On va les plier, les coachs.
C'est mission impossible pour toi. On t'écoute.
Alors, j'ose espérer que ce soit une mission impossible. Évidemment, dans ce bas monde, on ne peut jurer de rien et on sait que les dirigeants des fédérations sont des gens tellement proches de l'argent et qui adorent qu'on leur fasse des cadeaux, des millions de dollars, qu'il ne faut jurer de rien. D'ailleurs, les exemples récents montrent que rien n'arrête une fédération internationale lorsqu'on lui fait miroiter des millions de dollars et des conditions idylliques pour l'organisation de ces compétitions. Maintenant, alors je vais pas me prononcer sur la Coupe du Monde parce qu'on a vu ce qui s'est passé au Qatar. Je vais me prononcer sur les Jeux Olympiques parce que pour moi, c'est quand même la compétition ultime. C'est l'événement mondial par excellence et les valeurs qui l'accompagnent. L'olympisme me semble pour le moment incompatible avec l'organisation des Jeux Olympiques dans ce pays. Un pays qui, on le rappelle, ne respecte pas les droits de l'homme, ne respecte pas les droits de la femme, applique la charia et n'hésite pas à découper en morceaux les opposants et à les balancer dans une valise pour s'en débarrasser. Avec ça, t'es bien barré et tu veux organiser les Jeux Olympiques. Imaginez un peu, vu ce qui s'est passé pour le Qatar, le tollé que même la candidature saoudienne provoquerait dans le monde entier. Pendant des semaines, les organisations des droits de l'homme battraient le pavé, on appellerait aux dirigeants de leur pays pour mettre à bas une telle candidature. En tous les cas, dans les pays démocratiques, je ne parle pas de tous les pays, évidemment. Je ne sais pas si cela suffirait à empêcher les membres du CIO de voter pour une telle candidature. J'ose espérer que si, sachant qu'ils sont 106 membres du CIO qui viennent de tous les pays du monde. Et j'ose espérer évidemment que nos dirigeants montreraient un peu plus de courage qu'ils n'en ont eu avec la Coupe du Monde au Qatar. J'ose espérer que le monde entier ne se réveillerait pas à quelques semaines la cérémonie d'ouverture parce que là, sans serait désespérant. Donc voilà. C'est un vœu pieux. Je sais que vous, vous êtes dans la réelle politique et que vous vous en foutez du moment où vous mettez une tuile sur la table.
Tu peux pas dire ça.
Pascal Duprat.
Non, t'arrives là comme un ange.
Nous, on est pour
vengeur masqué là. Non, mais Christophe, on peut pas te laisser dire ça.
D'accord.
Déjà, d'une part, ça contribuerait à faire en sorte que l'État que tu dénonces ou les États que tu dénonces qui font qui ne font pas la part belle aux droits de l'homme, opérait une prise de conscience si on leur attribuait les Jeux Olympiques en leur disant attention, nous on veut bien vous donner les Jeux Olympiques mais à une condition, c'est que vous revoyez vos manières
c'est
de faire.
C'est vrai que ça a fait changer de politique en Chine par exemple, tu vois, de leur attribuer les Jeux Olympiques.
C'est à force de combattre.
Je disais la même chose.
Non, mais en fait les mentalités change à force de se battre, les choses ne sont pas arrivées en un jour. Et donc moi ce que j'aimerais plutôt, Christophe, c'est revenir sur l'aspect sportif. Et ça m'importe beaucoup. Qu'est-ce que tu as reproché à la Coupe du Monde qui s'est déroulée au Qatar? Sur l'antenne de RMC, je t'ai souvent entendu dire écoute que tu boycotterais déjà.
Non,
tu
boycotterais la Coupe du Monde. Pascal, pas du tout.
Non, mais
j'ai jamais dit que je boycotterais la Coupe du Monde. Une fois qu'elle a été obtenue par le Qatar, c'était trop tard pour se réveiller.
Qu'on a reproché donc à l'État du Qatar? La Coupe du Monde, elle s'est magistralement déroulée.
Ouais, c'est bien.
Stades merveilleux, dans une ambiance bon enfant avec du public.
Mais oui, au nom du sport, tu mets tout le reste sous le tapis, tu dis oh c'est pas grave, tout se passe bien, regardez, on a fait une compétition sportive formidable, c'est génial.
Est-ce que tu penses pas que par le biais du sport, le Qatar va peut-être aussi réviser son jugement et sa manière de procéder?
Moi je pense qu'il y a un moment où on va arrêter aussi le délit de cette gueule.
Marc Madiot.
Parce que quand c'est pas un pays européen.
Demande à Khashoggi ce qu'il en pense du délit de.
Ou l'Australie qui organise une compétition mondiale, quand ça n'est pas un de ces continents-là qui organise, ça devient sale d'aller en Arabie Saoudite, ça devient sale d'aller en Asie. Pourquoi?
Ah non, mais pas du tout.
Il mérite tout autant que n'importe quel autre pays.
C'est pas une histoire de continent.
Les JO.
C'est une histoire de politique, de démocratie et le reste.
Mais regarde,
je suis désolé, mais l'Olympisme, mais regarde, pour vous, ça n'a pas des valeurs.
Le fait que c'était au Qatar, le fait que c'était au Qatar la Coupe du Monde, on a quand même parlé beaucoup des LGBT, on a fait avancer des prises de position. Et moi, en vertu de quoi les grands événements sportifs devraient être réservés à une élite? En vertu de quoi? Je trouve que le sport, justement, doit servir d'ouverture. Et le fait d'aller dans ces pays qui ne sont pas exemplaires par ailleurs, va ouvrir
rien
des réflexions.
Mais ça ouvre rien du tout.
Mais ils ont le droit de recevoir les JO.
Tu es fataliste.
Ils ont le droit de recevoir la Coupe du Monde. Pourquoi ce serait toujours l'Europe ou l'Amérique du Sud qui recevrait toujours la Coupe du Monde?
J'entends cet argument, mais vous faites fi quand même.
Mais on ne fait pas fi. Le stade, c'est sacré.
Je parle pas
ça. Le stade, c'est sacré.
Oui, mais vous faites fi de tout ce que ça peut générer en termes de corruption et tout ça derrière.
Mais tu crois qu'il n'y a pas de la corruption ailleurs? Il y en a partout de la corruption. Il n'y a pas besoin d'aller en Asie pour en avoir.
Ok, donc c'est pas grave.
Mais pourquoi les deux, avec vos bâtons de pèlerin, Jean-Christophe et Christophe, pourquoi vous n'allez pas voir le président de la République ou le maire de Paris? Parce que à Paris, les Qataris sont bien présents, non?
Mais c'est rien.
Vous couvrez quand même le Paris Saint-Germain, ouais.
Alors là,
pourquoi vous les couvrez,
Patrick?
Puisque vous dénoncez, appelle-moi Lucien.
Je suis tellement énervé que je t'appelle Patrick. Voilà, tu le sauras maintenant, mon Pascal. Quand je suis énervé, je t'appelle Patrick. Donc Patrick, écoute-moi bien. Non mais c'est aux politiques de faire ça. C'est aux politiques de s'engager. C'est
à la politique aux politiques, le sport aux sportifs. Tout simplement. Restons chacun dans nos précarés.
Ok. Jean-Baptiste Guégan est avec nous. Salut Jean-Baptiste.
Salut les gars.
Alors Jean-Baptiste est journaliste, enseignant, spécialiste en géopolitique du sport. Je cite Jean-Baptiste, ton dernier ouvrage, Atlas géopolitique du sport, coécrit avec Lucas Aubin. Merci d'être avec nous. Déjà sur ce débat, l'Arabie Saoudite qui organise les deux plus grands événements planétaires. C'est possible ou c'est impossible?
Si on raisonne sur des critères qui sont des critères de régime démocratique, c'est-à-dire respect des droits, respect des femmes, des LGBT, si on regarde la question de la pollution et de l'empreinte écologique, c'est un des pays les plus polluants du monde quand même, on devrait dire non. Mais les critères d'attribution de ces événements, ce ne sont pas ceux-là. On part sur un principe, c'est que le sport est apolitique, à la fois dans ses prises de décision et dans ses déroulements, et donc ils ont le droit de candidater. Après, on a le droit d'être contre, mais on l'a vu avec le Qatar. L'argent fait des choses que la morale réprouve. L'argent n'a pas de limite ni de frontière. Et avec l'Arabie Saoudite, on a un bel exemple. Ils vont y aller. Ça sera aussi un élément qui leur permettra peut-être aussi d'avancer, de se moderniser. Mais dans les faits, ils ont le droit d'y aller.
Mais ils ont le droit d'y aller, mais on a la sensation tout de même qu'avec le Qatar, parce que on aurait posé cette question il y a 2 ou 3 ans, peut-être pas les mêmes réponses, mais avec le Qatar, déjà tous les politiques nous ont dit « Attendez ». Ça a été octroyé il y a 12 ans, c'était en 2010. Fallait vous réveiller avant les mecs de parler de boycott, soit. Mais maintenant, on est un peu sur le truc du plus jamais ça, quelque part. Maintenant, on sait, non, Jean-Baptiste?
Le plus jamais ça, je serais d'accord. Mais ça, encore une fois, c'est vu d'Europe. Quand on se souvient de cette Coupe du Monde a été une réussite. Malgré le sort des travailleurs, malgré finalement tout ce qu'on a mis en avant. Ça a été la Coupe du Monde la plus politique de l'histoire. Et en termes de traitement médiatique, j'ai rarement vu un événement sportif être critiqué autant. Et tant mieux. Maintenant, encore une fois, ces événements, c'est 2030. 2030, c'est 7 ans. 2036, c'est pareil, c'est encore plus loin. L'Arabie Saoudite a le temps de se moderniser, a le temps aussi de pratiquer une vraie politique d'influence. Et aujourd'hui, nos États, nos fédérations ont besoin d'argent, et on le voit avec le PSG. Pour 15 millions d'euros, ils vont peut-être sacrifier un match de Coupe de France. On est dans une situation particulière. Et donc, dans ce cadre-là, là encore, on va être dans de la réelle politique. C'est-à-dire, quel sera le rapport de force exact et qui sera enclin à suivre l'Arabie Saoudite? Faut pas oublier une chose, hein. Vous êtes sur un des premiers producteurs de pétrole du monde. Aujourd'hui, un État qui a des moyens qui sont colossaux en termes d'investissement, on le voit avec Newcastle et ailleurs. Derrière, ça peut convaincre des gens. Et puis, les régimes autoritaires, il y en a 40% dans le monde. Et eux, ils seront enclins à entendre d'autres histoires.
Bien sûr.
Christophe,
sur les 106 membres du CIO, je ne sais pas combien, il y en a qui viennent de pays autoritaires, mais il doit y en avoir un paquet. Alors, il y a le problème des droits de l'homme, Jean-Baptiste, mais il y a aussi le problème de l'environnement. Tu le disais, l'Arabie Saoudite est un des pays les plus pollueurs au monde. On sait que le CIO a décidé de s'engager auprès du développement durable, de l'écologie et tout ça.
Violon.
Oui, mais il n'empêche qu'il y a quand même une opinion publique dont il faut tenir compte. Je sais que toi, tu es un dictateur, que l'opinion publique n'en a rien à faire. Mais il y a quand même une opinion l'opinion publique dont il faut tenir compte. Et est-ce que tu penses, Jean-Baptiste, que ce serait entendable de faire des jeux pharaoniques comme Poutine en avait fait à Sochi il y a quelques années? Ou est-ce que en 2030, on ne sait pas dans quel état sera notre planète, mais bon, vu l'état de délabrement avancé, on peut quand même se poser des questions. Est-ce que tu penses que là aussi, ce sera entendable de donner les Jeux Olympiques à un pays qui aurait quasiment tout à construire en matière d'équipement sportif?
Alors moi, je pense clairement que Qatar 2022, donc la Coupe du Monde, a été un tournant, on ne pourra plus faire fi de cette question. Et donc l'Arabie Saoudite va devoir travailler ses dossiers en fonction de ça. Et là encore, c'est là où le CIO et la FIFA peuvent entendre. C'est que si on vous propose un projet de transition écologique en Arabie Saoudite, avec des projets écologiquement responsables, de la même manière que le Qatar l'avait fait en expliquant que tout ce qui était climatisation, c'était à zéro impact, que la manifestation serait la première manifestation éco-responsable, ce qui a été le cas, hein. Ça a été validé par des sources. Alors dans les faits, c'est probablement différent, mais en tout cas, ils avaient les labels. L'Arabie Saoudite est sûrement encline à faire ça, c'est-à-dire à mettre tout en œuvre pour montrer qu'elle est capable de progresser sur ces domaines-là. Et là encore, si on est juste réaliste, s'ils arrivent à prouver qu'ils sont en train de progresser sur cette question-là, sachant qu'on sera probablement dans un monde différent en 2030, est-ce qu'on sera pas enclin à saluer au contraire l'effort et à appuyer via le sport ça? Et puis ça dépendra aussi de la conjoncture géopolitique à ce moment-là.
Je suis d'accord, il faut attendre parce que le monde va évoluer encore, sauf que l'attribution, ça va quand même se passer dans ces 3-4 prochaines années, et on devrait quand même rester, enfin, on ne peut jamais jurer de rien, mais on devrait rester quand même dans cet état d'esprit-là, j'ai envie de dire.
Qui va avoir les moyens en Europe, en Amérique du Sud ou en Amérique du Nord, d'organiser?
Il faut changer le système, justement.
C'est intéressant, c'est pour ça qu'il y a plusieurs pays.
Il y a quand même une équation à régler.
C'est pour ça.
Quand on voit aujourd'hui ce qui se passe en France par rapport au prochain JO, on voit bien qu'il y a des difficultés financières. Il y a des difficultés financières et il y aura de plus en plus de difficultés financières pour certains pays pour pouvoir organiser. Faut être réaliste. Et un pays comme l'Arabie Saoudite, ils ont les moyens. Et si, à travers leur candidature, ils sont obligés de faire avancer des causes humanitaires, c'est tant mieux, tout le monde est gagnant à la sortie.
Je ne sais pas si c'est une cause humanitaire, mais c'est aussi pour ça que la Coupe du Monde en 2030, qui n'a pas encore été attribuée, c'est souvent plusieurs pays qui s'allient pour organiser une Coupe du Monde. Il y a le Portugal, l'Espagne notamment. Mais l'Arabie Saoudite, et on a développé déjà cette actualité dans l'émission, c'était il y a quelques semaines, l'Arabie Saoudite qui s'allie avec l'Égypte et la Grèce. C'est-à-dire une Coupe du Monde sur trois continents, en disant la Grèce, bon, qui a peu de moyens depuis quelques années à cause d'une crise, on paye tout pour les Grecs. Est-ce que ça peut entrer dans un cheminement où on se dit, j'interpelle Jean-Baptiste Guégan.
Oui, d'abord, si l'Arabie Saoudite règle la note pour tout le monde, déjà ça va faciliter la chose. Et puis ils sont assez malins. Parce que le fait d'être avec un membre de la Confédération africaine, un membre de l'UEFA, et d'être, eux, membres de l'AFC, hein, la Confédération asiatique, ce serait la première manifestation qui rassemble trois confédérations. En termes de votants, c'est plutôt habile. Et puis derrière, en termes de capacité de construction d'infrastructures, ça sera sans limite. Et on aura le même type d'organisation qu'avec États-Unis, Mexique, Canada, donc la Coupe du Monde 2026, où les États-Unis vont prendre 80% des matchs et laisser les matchs de poule et éventuellement des quarts de finale aux autres pays. Si vous avez la même stratégie, ça peut fonctionner. Après, il y a une limite, hein. Faut le dire aussi. Vous êtes sur deux régimes autoritaires, l'Égypte et l'Arabie Saoudite, et la Grèce, jusqu'à preuve du contraire, est une démocratie. Et quand l'Union Européenne va mettre son nez dedans, en ce moment, elle a quelques problèmes avec le Qatar et le Maroc. Ça devrait bouger. Cette candidature, elle est vouée à être dysfonctionnelle.
Elle est vouée à être dysfonctionnelle.
Ça peut ne pas marcher, quoi, clairement.
Oui, j'avais compris le sens de dysfonctionnel. Voilà. Je ne suis que journaliste, Jean-Baptiste.
C'est la manière politique de dire que ça va être le bordel.
C'était une relance. J'ai bien compris. Pascal, sur ce sujet.
Non, mais en fait, la philanthropie et le sport de haut niveau ne font pas bon ménage. Donc déjà, ça c'est un premier argument qui est en faveur des pays du Moyen-Orient. Donc ça, on peut pas lutter. Donc ils ont déjà un point et des atouts par rapport à ça. Et puis ensuite, je veux absolument aller sur le terrain dont je parlais tout à l'heure. Je pense que le sport peut aussi faire prendre conscience à des dirigeants politiques de pays, on va dire, autres que démocratiques, eh bien qu'ils doivent changer la donne et leur conception de
Posons la question à Jean-Baptiste pour savoir si effectivement les pays qui ont obtenu l'organisation de grandes compétitions ont changé du fait de du désaccord, en tous les cas d'un mouvement d'opposition. Est-ce que Poutine, par exemple, a changé sa politique une fois qu'on lui a attribué les Jeux à Sochi? Est-ce que les Chinois ont changé leur politique vis-à-vis des minorités lorsqu'ils ont obtenu à deux reprises des Jeux Olympiques? Est-ce que le Qatar a changé sa politique vis-à-vis des LGBT? Je ne sais pas. Jean-Baptiste doit avoir des réponses que je n'ai pas.
C'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire que les régimes ne changent pas, mais les populations, elles, profitent de l'événement et voient le monde autrement. Les Russes, par exemple, et là je reprends ce que disait Lucas dans notre atlas, c'est la première fois que la population russe, en 2018, pouvait faire la fête dans la rue, gens du monde entier. Après, oui, ça ne modifie pas le régime. Donc le régime reste autoritaire. Par contre, il peut être ébranlé à moyen terme. L'Arabie Saoudite, s'ils veulent ça, c'est aussi parce que leur population a plus de 70% à la moins de 40 ans. C'est aussi destiné à, certes, solidifier le pouvoir de Mohamed Ben Salman. On n'est pas dans une démocratie, donc lui, il est là pour 40 ans minimum. Mais derrière, c'est aussi une manière de donner aux jeunes et à la jeunesse ce qu'elle veut. Or, cette jeunesse, elle est plus ou moins occidentalisée. Et donc, elle a ce besoin de loisirs, de sport. Là, par exemple, l'arrivée de Ronaldo, c'est ça. Regardez, je vous offre une star mondiale, même sur le déclin, même sur la fin.
Merci beaucoup Jean-Baptiste.
C'est là où ça change.
Merci Jean-Baptiste Guégan d'avoir été avec nous, journaliste, enseignant, spécialiste en géopolitique du sport. Atlas géopolitique du sport, c'est ton dernier livre coécrit avec Lucas Aubin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous Jean-Baptiste, et au plaisir de te retrouver, car ce genre de débat et ce débat se retrouvera évidemment de nouveau dans les grandes gueules du sport.
Il a été le professeur d'Arthur Perrault en plus, Jean-Baptiste.
Hein. Ouais, c'est vrai, j'ai eu en prof.
C'est fou, hein.
À l'école supérieure de journalisme.
Oh, quelle histoire, dis donc. Tout le monde est très intéressé par cette anecdote.
J'ai eu Christophe aussi. C'est pour ça qu'Arthur, aujourd'hui, est un bon journaliste, tu vois. Ouais, ouais. Il a eu des bons profs.
On en parlera à Michel Drucker, ils vont faire un truc incroyable de cette histoire. Pas de souci.
C'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant.
Je vous donne le résultat.
Parce que ça.
Est-ce que cette émission impossible, 34%, c'est une défaite pour Christophe, même si tu as gagné un petit pourcentage, bravo à toi. Mission, c'est possible.
Ah non, j'ai gagné.
L'Arabie Saoudite d'organiser ce genre d'événement et les deux plus grands événements planétaires à 66%. Bravo Marc, bravo Pascal. On se retrouve dans quelques instants. C'est à toi de jouer, Christophe. Ne perds pas de l'influx. C'était mieux avant. Lance Armstrong, le conte de fées tout d'abord. Épisode 1. À tout de suite sur RMC.